Que toute notre vie reflète la grâce, la bonté, la sainteté, la pureté, la justice, la gloire de son nom. Merci de nous parler maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Quel moment merveilleux de louange et d'adoration. Nous sommes donc, je me permets de vous le rappeler, le 10 avril, c'est le dimanche avant le dimanche de Pâques. Et je voudrais que nous entrions déjà dans le thème de Pâques. Et je bénis Dieu pour la façon dont il a conduit la louange, le choix des chants. Il a été question du Christ qui est mort, du Christ qui est ressuscité, de celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Et je voudrais donc parler ce matin de ce que par sa mort le Seigneur a tout accompli. Mais alors tout accompli. Il n'y a rien à ajouter. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait ou qu'un nouveau prophète vienne pour nous apporter une lumière supplémentaire ou complémentaire. Eh bien, Christ a tout accompli. Christ a tout achevé. Et à lui soit la gloire. Voilà, notre thème est donc, par sa mort à la croix, évidemment, Jésus a tout accompli. Nous allons voir, nous allons essayer de nous attarder un tout petit peu sur cette parole « Tout est accompli », ce cri de victoire, de triomphe qui est sorti de la bouche du Seigneur alors qu'il était agonisant, alors qu'il était pendu entre ciel et terre. Plus que des simples mots qui sont sortis de sa bouche, mais un cri de victoire. Jean 19, Évangile de Jean, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 30, très rapidement. Jésus portant sa croix, sortit de la ville. Est-ce qu'on peut remettre, s'il vous plaît, la version que j'utilise ? Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé, le crâne qui s'est dit en hébreu, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. Cela, c'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, tout accompli, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Et gloire au Seigneur. C'est donc sur ces propos, sur cette parole qui fait partie des sept paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix, alors qu'il était pendu entre ciel et terre, alors qu'il était là cloué à la croix, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est qui avait maintenu le Seigneur sur ce bois infâme de la croix, là, Golgotha, ce n'était pas la force des clous, mais plutôt l'amour qu'il avait pour chacun de nous, l'amour qu'il avait pour l'humanité. C'est ce qu'il avait maintenu sur la croix. Alléluia. Car même dans ces moments d'agonie atroce, dans ces moments de souffrance indescriptible, il est resté Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il eût fallu un simple mot de sa bouche, une simple parole, pour que tous ses ennemis soient terrassés. Mais il est venu non pas en lion de la tribu de Juda, mais il est venu en agneau pour donner sa vie, pour la poser sur la croix, afin de nous racheter, mes amis, de l'esclavage par rapport au diable, de nous racheter par rapport au péché, à la puissance du péché, et nous donner ainsi l'occasion de nous réconcilier avec notre Père, de retrouver la communion avec le Créateur, cette communion qui avait été rompue, hélas, là au Jardin d'Éden, dans le tout début de l'humanité. Et gloire au Seigneur. Cette parole que le Christ a prononcée à la croix, cette parole qui nous sont rapportées et que le Christ a proclamée, je vais les passer très rapidement en revue, puisque c'est la sixième parole qui nous intéresse, à savoir celle qu'il a proclamée, à savoir tout est accompli. La première parole, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même dans ces moments terribles où il aurait pu manifester sa colère, non, il ne l'a pas fait. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Deuxième parole, en vérité, je te le dis, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », parole adressée à un brigand, à un des brigands repentants qui avait reconnu qui il était, et le Seigneur lui promet le ciel. Troisième parole, là il s'adresse à sa femme, et plutôt à sa mère, et ensuite à son disciple bien-aimé, à savoir l'apôtre Jean, il dit « Femme, voici ton fils », et s'adressant à l'apôtre, il dit « Voici ta mère ». Quatrième parole, là il s'adresse de nouveau au Père, par cette expression terrible qui exprimait, mes amis, la singularité de son sacrifice en croix. « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou alors en araméen, « Eloi, Eloi, lama sabachthani, abandonné parce qu'à ce moment-là, il a prené tous nos péchés, toutes nos malédictions, mes amis, tout ce qu'il y a de souillure, d'impureté, tout ce qu'il y a d'abominable sur lui. » Cinquième parole, « J'ai soif !» Et sixième parole, « Tout est accompli !» Et enfin, la septième parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et là, le Seigneur expira. Gloire au Seigneur. Tous ces événements, et en particulier l'événement de la croix, n'est pas arrivé au hasard, frères et sœurs. Christ est venu sur cette terre pour donner sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. C'est donc la sixième parole qui nous intéresse aujourd'hui. J'aurai le temps de revenir là-dessus pour essayer de voir, car ce sont des paroles, mes amis, qui contiennent des révélations dont l'Église a besoin, surtout dans ces temps de la fin où elle est soumise à toutes sortes de pressions de la part du monde, ce monde de plus en plus rebelle, ce monde idolâtre, ce monde qui rejette de plus en plus Dieu. Eh bien, ce monde exerce une pression funeste, une pression mortifère, terrible sur l'Église, qui amène l'Église à tanguer. Et dans ce contexte-ci, nous avons plus que besoin, plus que jamais besoin, de la révélation de toutes ces paroles. Tout est accompli, tout est achevé. Eh bien, comme je l'ai souligné, ces paroles, ou du moins ces propos qui sont sortis de la bouche du Seigneur, étaient plus que des simples mots qui pouvaient sortir de la bouche de quelqu'un qui agonisait, de quelqu'un dans un état terrible. Car lorsque cette parole est sortie de sa bouche, le Seigneur était en proie à des terribles, à d'atroces douleurs, meurtri, assoiffé, rejeté par tous, prenant la culpabilité de l'humanité depuis que l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden jusqu'à ce moment-là et jusqu'à la fin des temps, eh bien le Christ a pris tout cela sur lui. Voyez-vous, ces paroles, mes amis, étaient plus que des simples mots. Ce qui est sorti de sa bouche, cette parole, et j'ai eu l'occasion d'en parler il y a 6 ans d'ici, cette parole fait partie des 3 grands cris, 3 cris suprêmes qui ont changé à tout jamais le destin de l'humanité, la destinée de l'homme. Depuis que l'homme existe, mes amis, 3 cris ont retenti dans l'histoire de l'humanité. Et ces cris-ci, tout est accompli, fait partie de ces cris, oui, de ces cris qui ont changé le destin des humains, et tout cela à tout jamais. C'est donc un cri de triomphe, c'est un cri d'assurance, c'est un cri de victoire, alléluia. Et ce cri résonne à travers les arcades, mes amis de l'espace et du temps. Ce cri a eu des échos jusque dans l'éternité. Et nous verrons que l'événement de la croix reste le seul qui a suscité autant d'intérêt là-haut, parmi les anges, devant le trône du Père. Jamais cela n'était arrivé auparavant. Oh, il est temps que nous puissions nous rappeler de la singularité, mes amis, de ce que Christ a fait. Ce qu'il a fait est unique. Ce qu'il a fait reste singulier. C'est le seul moyen pour l'homme de se réconcilier avec son Créateur. Mais hélas, après 2000 ans, l'homme est encore à la recherche d'une religion qui puisse l'aider à se réconcilier avec son Créateur. 2000 ans plus tard, on trouve encore des hommes et des femmes qui courent à la recherche d'un saint ou d'un ange ou d'un archange à qui confier leur destin, alors qu'il y a 2000 ans, tout a été accompli, tout a été achevé. La porte du ciel est grandement ouverte. Quiconque croit en lui, quiconque s'appuie sur cette œuvre de la croix, le Père l'accueille et entre dans le royaume du Père. Cri de triomphe. Oui, 3 cris. Le premier, je vous rappelle, il me semble que je dois revisiter ce message. En le préparant moi-même, j'ai été de nouveau plus que béni. Le premier cri, c'est celui qui a retenti là dans le jardin d'Éden. Après que l'homme et la femme aient péché, après qu'ils aient tourné délibérément, volontairement leur dos au Créateur, ils ont réalisé leur nudité, ils ont réalisé la gravité, mes amis, l'horreur de ce qu'ils venaient de faire. Et là, ils se cachent, là, ils se disent, c'est fini. Nous venons de perdre ce qui faisait notre raison d'être dans le jardin d'Éden. Nous venons de perdre la chose la plus importante qui soit pour l'homme, quel qu'il soit, sa relation, sa communion, son intimité avec le Créateur. Et là, un cri dans ce jardin d'Éden, un cri va sortir de la bouche du Créateur, de la bouche du Dieu vivant, le Seigneur de gloire. Adam, où es-tu? C'était pas le cri d'un bourreau à la recherche du coupable pour l'achever, pour exécuter sa sentence. Mais c'était le cri du Dieu qui est amour, qui aurait pu laisser l'homme dans cet état terrible, indescriptible. Mais ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est riche en bienveillance, ce Dieu qui est riche en fidélité, ce Dieu qui nous aime, a cherché Adam. Adam, où es-tu? Et ce cri a changé à tout jamais le destin. Car après ce cri, eh bien, d'autres paroles vont sortir. Et ensuite, le deuxième cri. Je reviendrai, je vous dis là-dessus. Le deuxième cri, c'est celui dont il est question aujourd'hui. Tout a été accompli. Et le lien qu'il y a entre les deux, plusieurs liens en particulier, le lien spatial entre les deux, c'est que les deux cris ont retenti dans un jardin. Le premier, c'était dans le jardin d'Éden. Le deuxième, c'est aussi dans un jardin. En effet, Jean 19, verset 41 nous dit, « Or, il y avait un jardin au lieu où Jésus avait été crucifié. » Et dans ce jardin, un tombeau neuf où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'ils mirent Jésus. Le premier auteur de la révélation écrite, Moïse. Le dernier auteur de la révélation écrite, c'est-à-dire Jean, puisque l'un a écrit le livre de la Genèse, l'autre le livre de l'Apocalypse, se rejoignent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le troisième cri, comme je vous ai dit, je vous donne ça à titre informatif ou de rappel. Le troisième cri, c'est un cri qui retentira bientôt, mes amis, un cri de commandement, un cri de guerre. Lorsque ce cri-là retentira, lorsque ce cri merveilleux, glorieux, ce cri de commandement retentira, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur apparaîtra sur le nuée pour chercher son Église, cette Église qui est son époux, cette Église qu'il s'est acquise par son sang. Là, c'est l'expression qui est utilisée, là où Paul dit, enfin là on a traduit dans Thessaloniciens, et le Seigneur lui-même a un signal donné, littéralement, le Seigneur lui-même au cri de commandement, oh alléluia, le guerrier redoutable, le Dieu des armées, ce jour-là il quittera son trône, ce jour-là un cri retentira, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, ceux qui seront debout seront changés, transformés, métamorphosés en un clin d'œil. Et tous, absolument tous les chrétiens de tous les âges, par ce cri de commandement, eh bien un cri de victoire, rien ne pourra nous arrêter, aucune loi physique, pas, même pas la pesanteur, aucune loi spirituelle, aucun démon, pas même Satan. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce sera un cri de commandement. Quand on commande, quand le roi de rois décrète une parole, personne ne peut aller à l'encontre. Trois cris. Et l'histoire de l'humanité a changé à tout jamais. Revenons au deuxième cri très rapidement. Tout est accompli. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par ce cri ? En prononçant cette parole, tout est achevé. Qu'a-t-il accompli, qu'a-t-il achevé réellement? Eh bien, nous savons tous que le Seigneur n'est pas venu passer des vacances ici-bas. Il n'est pas venu chercher le soleil de la terre. Il n'est pas venu parce que quelque part il aurait été fatigué par toute cette gloire au ciel. Alors il se serait décidé, bon, je vais visiter la terre. Et quand on regarde la terre à l'échelle, mes amis, à l'échelle cosmique, c'est un grain de poussière, ça ne représente rien. Et pourtant, c'est sur ce grain de poussière qu'il est venu. Alléluia. Eh bien, il est venu parce qu'il avait reçu une mission. Il est venu, et ceci est sa raison, la raison principale, cardinale de sa venue ici-bas. Il est venu achever la mission, cette mission qu'il avait amenée à s'incarner, à prendre un corps semblable au nôtre. Et cette mission, eh bien, c'était de payer le prix du pardon. Alléluia. D'accomplir l'œuvre, d'achever l'œuvre d'expiation, l'œuvre de rédemption pour laquelle le Fils de Dieu était descendu ici-bas. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Tout ce qui avait été promis, tout ce qui était symbolisé par les différents sacrifices dans l'ancienne alliance, tout cela va être accompli ce jour-là, dans la mort et par la mort du Seigneur. Alléluia. Il a versé son sang pour le salut de l'humanité. Mes amis, par sa mort, le Seigneur nous a acquis le pardon des péchés. Donc le pardon a été accompli. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de payer quoi que ce soit, d'aller dans tel ou tel autre lieu de pèlerinage en vue d'obtenir la rémission ou l'absolution de nos péchés, pas du tout. Tout a été accompli à la croix. Tout ce que le Seigneur attend de nous, eh bien, que nous puissions lui demander pardon en nous appuyant sur cette œuvre de la croix. Il nous a acquis le pardon des péchés. Il nous a acquis le salut. Il nous a acquis la réconciliation avec Dieu. Il a rendu possible l'accès à la vie éternelle. Voilà tout ce qu'il a accompli à la croix. Alléluia. Sa mort est donc la base de toutes les bénédictions. Alléluia. C'est la mort de Jésus. Plutôt que sa vie terrestre, plutôt que les miracles qu'il a accomplis, qui est donc de la plus haute importance. Elle est au cœur de notre salut. Vous comprenez pourquoi l'ennemi fait tout pour bypasser la mort du Christ. Il y a des religions qui croient en Jésus comme étant l'Esprit de Dieu, comme étant un prophète, un grand prophète, tout ce que vous voulez, mais qui ne croient pas dans l'œuvre expiatoire. Et ça, c'est la ruse du diable. Car la seule œuvre qui sauve l'homme, c'est ce qui s'était passé à la croix. Tout est accompli, parfaitement achevé. Tout est accompli veut dire que le plan de Dieu pour le salut de l'homme est achevé. La rédemption, le rachat des perdus, plus qu'achevé. Alléluia. Voyez, tout ce que Dieu avait fait comme promesse, la raison d'être même de tous ces sacrifices sanglants, dans la loi de Moïse, où le pécheur devait apporter un animal pour que cet animal soit offert en sacrifice, le sang coulait. Tout cela, mes amis, n'était que la préfiguration de la véritable, du véritable sacrifice que Christ allait accomplir. Et là, Golgotha, il a accompli. Alléluia. Alors, très rapidement, épinglons quelques vérités en rapport avec cet achèvement, cet accomplissement. Tout est accompli. Il y a d'abord la première promesse de toute la Bible, en rapport avec la perdition de l'homme, à savoir la promesse messianique. Genèse 3:15. Après la chute de l'homme et de son épouse, après que Dieu ait proclamé ce cri de recherche, « Où es-tu ? » C'est Dieu qui cherche l'homme perdu. L'homme est désormais perdu. Il y a eu glissement dans sa relation avec le Créateur. Cette initiative n'est pas venue de l'homme, mes amis. L'homme a essayé de cacher sa nudité avec les feuilles des figuiers. Mais quand le cri du Créateur retentit, eh bien, le Dieu réalise la vanité, la nullité, la folie de vouloir résoudre la problématique du péché à partir de ses propres efforts, à partir de sa propre intelligence. C'est leur intelligence obscurcie, marquée désormais par les péchés, qui leur avait suggéré cela. Quand Dieu parle, quand ce cri retentit, eh bien, ils réalisent que ces feuilles de figuier, que ces efforts, que je pourrais appeler les premiers efforts religieux de l'homme pour quelque part résoudre ce problème ou la problématique du péché, viennent de là, ils ont réalisé que cela ne valait rien. Et dans ce contexte-là, après qu'il ait interpellé l'homme et la femme, le Seigneur, le Dieu de gloire, s'adresse à l'ennemi, notre ennemi juré, notre adversaire, le diable, Satan. Et le Seigneur lui dit, « La descendance de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » La toute première fois, une promesse est faite à l'homme et à la femme après leur chute. La toute première fois, l'homme et la femme entendent que quelqu'un qui allait sortir de la femme, non pas un ange qui viendrait s'incarner, non pas un archange, non pas un quelconque prophète, non mais quelqu'un qui descendrait de la femme, est celui qui allait écraser la tête du diable. En d'autres mots, celui qui allait libérer l'homme de l'emprise du diable, libérer l'homme des liens qui l'attachaient désormais au diable. Cela a été accompli là à la croix. Et quand il dit tout est accompli, y compris cette promesse. Voyez-vous, le Messie est venu et le Messie, là sur la croix, accompli. Par sa mort, Jésus a écrasé Satan. Il a triomphé de lui et de tous les démons, de tout l'enfer. C'est ce que Paul, juif, intégriste autrefois, très attaché à la, aux traditions de ses pères, mais qui un jour rencontre le Seigneur, qui un jour reçoit la révélation de qui était Jésus, mais aussi de cette œuvre singulière de la croix, eh bien Paul poussera ce cri de triomphe aussi en disant, il a triomphé, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Le diable est un ennemi vaincu. Arrêtez de vous laisser manipuler par des faux discours. Ah oui, tel est sorcier, il faut avoir peur. Pas du tout. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Oh, tel est très engagé dans telle confrérie mystique et démoniaque. Tel est sataniste. Mais ce sont eux qui doivent avoir peur de nous. Car celui qui est en nous, est plus fort, plus redoutable que celui qui est derrière toutes ces pratiques diabolo-satano-démoniaques. Et en lui, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, sur la mort de la croix, quand il dit tout est accompli, eh bien le Seigneur a provoqué la défaite du diable, la défaite de Satan. Désormais, depuis, Satan est un ennemi vaincu. Voyez-vous, certes, il sévit encore, certes, il est puissant, attention, ne tombons pas non plus dans l'autre extrême qui serait de croire que le diable, c'est un petit pantin. Voyez-vous, comme ça, ben, il ne représente rien, j'arrive, je lui donne un coup de tête, le voilà, il tombe les pieds en l'air, ou alors je viens chicote, Fimbo, et en dansant, attention, si nous pouvons résister, c'est simplement parce que nous sommes en Christ. Amen. C'est lui notre bouclier. Amen. Alléluia. Simplement parce que nous sommes couverts de son sang. Deuxièmement, tout est accompli veut dire il a anéanti le pouvoir du péché, le pouvoir d'asservissement, d'humiliation, le pouvoir de mort. Ainsi, par Jésus-Christ, eh bien, nous avons la victoire. Alléluia. Il a paru, nous dira Jean, dans 1 Jean 3:5, qu'il a paru afin d'ôter le péché. La réponse, mes amis, à la puissance du péché qui nous a servi tant, ce péché qui nous vampirise, ce péché qui nous obnubile, ce péché qui nous cache la face de Dieu, qui éclipse la présence de Dieu dans nos vies, la réponse ne se trouve pas dans des efforts religieux. La réponse se trouve en Christ, alléluia. Nous devons croire qu'il a tout accompli. Nous devons proclamer cette victoire par la foi. L'ennemi cherchera, mes amis, à nous décourager. Cherchera à minimiser la portée de l'œuvre de la croix. Mais rejetons ce genre de pensées. Ce sont des pensées qui conduisent à la défaite, à l'échec, mais proclamons la victoire du Christ. Gloire à Dieu. Je le disais, ce que le Seigneur a accompli là, à Golgotha, à la croix, est le seul événement qui a suscité autant d'intérêt dans le ciel. Avant qu'il monte en croix, le Seigneur avait accompli beaucoup de miracles. Il a eu à ressusciter des morts, il a eu à nourrir des foules nombreuses, plus que nombreuses, il a eu à faire marcher des paralytiques. Tous ces miracles qu'il a accomplis pour répondre à tel ou tel autre besoin des hommes n'a pas suscité beaucoup d'intérêt là au ciel comme nous allons le voir. Cependant, l'œuvre de la croix va avoir, mes amis, un écho plus que glorieux là au ciel. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur est sur la montagne de la Transfiguration, la Bible nous dit alors qu'il priait, son corps se mit à briller plus que le soleil, plus que la lumière de l'éclair, le terme utilisé en grec. Vous avez déjà vu un éclair jaillir. Voyez-vous,
Et là, quelque chose va se passer. Deux héros, deux géants de l'ancienne alliance vont apparaître. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Moïse et Élie. Ils apparaissent sur cette montagne et puis se mettent à s'entretenir avec le Seigneur. Et de quoi ont-ils parlé? De tous les miracles qu'il avait accomplis? Voyez-vous? Moïse aurait pu, le Seigneur aurait pu dire à Moïse, vous avez mangé la manne, moi j'ai eu à manger. Pas du tout. De quoi se sont-ils entretenus, mes amis? Dans Luc 9, 31, la Bible nous dit, ils se sont entretenus avec Christ de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Son départ non pas pour un tourisme. Son départ non pas pour aller dire bonjour aux membres du Sanhédrin, pas du tout. Ou aux disciples qui étaient à Jérusalem, pas du tout. Son départ à Jérusalem pour donner sa vie. Alléluia. Son exode. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Jésus le vainqueur, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'agneau de Dieu, debout dans cette vision formidable dans Apocalypse 5, versets 8 à 10. Et la Bible nous dit à un moment, le Seigneur se met debout, l'agneau de Dieu se met debout, il prend le livre scellé de sept sceaux, il ouvre. Et quand il ouvre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nous continuons. Et ils chantaient, regardez maintenant le cantique. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Oh, alléluia. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang l'œuvre de la croix. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régnent sur la terre. L'agneau, tu as été immolé. Tu as donné ta vie pour l'humanité. Tu as versé ton sang. Et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu. Ils chantent, mes amis, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour il y a eu Golgotha. Il y a eu cette croix. Il y a eu le Christ pendu. Il y a eu le Christ souffrant, il y a eu le Christ blessé, meurtri, il y a eu le Christ mort à cause de nos péchés, alléluia. Et quand il meurt, quatre événements surnaturels vont accompagner cet événement que je vous donne très rapidement. Quatre faits surnaturels se produisent lorsqu'il donne sa vie. Lors de la mort de Jésus, la première chose, le premier événement, eh bien, la Bible nous dit qu'il y eut les ténèbres depuis la sixième heure, depuis midi, jusqu'à 15 heures. Le monde plongeait dans les ténèbres. Voyez-vous, pendant ce temps, par sa mort, là à la croix, le Seigneur devint le sacrifice pour le péché du monde, l'agneau de Dieu. Voyez-vous, comme Jean-Baptiste l'avait dit, voyant le Seigneur, il le pointe du doigt. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Pierre dira, il a été livré pour nos offenses. Lui qui a porté nos péchés en son corps, dit Pierre. Et c'est Jean qui a dit, livré pour nos offenses, etc. Deuxième événement. Je reviendrai avec plus de détails plus tard, une autre fois. Le voile du temple s'est déchiré. Et l'auteur inspiré ou les auteurs inspirés précisent, déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui a déchiré. Hein? Parce que si c'était un homme, il serait parti vers le haut. Tout nous vient du ciel. Le salut nous vient du ciel. Alléluia. Il faut savoir, nous l'avons vu, que le temple comprenait trois parties principales. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint, ou le saint des saints, ou le débir. Dans le lieu saint, d'abord dans le lieu saint, eh bien, le lieu saint n'était accessible que seulement aux prêtres et aux sacrificateurs. Personne d'autre ne pouvait entrer dans le lieu saint. Quant au lieu très saint, ou au saint des saints, il était accessible uniquement aux grands prêtres, aux souverains sacrificateurs, lors, et encore une fois par an, lors du jour de l'expiation, c'est-à-dire le Yom Kippour, pour présenter un animal en vue de l'expiation des péchés du peuple. Et le fait que le voile se déchire de haut en bas, et ceci nous montre que ce déchirement à ce moment-là, eh bien, est tout un message que désormais, puisqu'il y avait que le souverain sacrificateur qui allait au-delà du voile, qui entrait par le parvis, et puis le lieu saint, et puis entrait enfin dans le saint des saints, désormais, l'accès au trône de la grâce est ouvert à tous ceux qui croient en lui, tout a été accompli. Car même le temple, on en a vu pendant plusieurs dimanches, eh bien, d'abord le tabernacle, le Seigneur a dit à Moïse, fais tout d'après le modèle qui t'a été révélé, dont Moïse avait vu des réalités spirituelles. Il avait vu le temple céleste, et il a essayé de reproduire à l'échelle infinitésimale ce qu'il avait vu, voyez-vous. Là, désormais, on n'a plus besoin d'un prêtre pour nous amener à Dieu. On n'a plus besoin de s'asseoir sur le dos d'un pasteur, Bondo Futul son nom. On n'a pas besoin d'un archevêque, d'un évêque, d'un bishop, d'un prophète ou d'un apôtre. Non, tout a été accompli par Jésus. L'accès est ouvert. N'importe quel pécheur peut y entrer. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais pris la décision de te repentir et d'entrer dans le Saint des Saints pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, eh bien l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Et ensuite il y eut un tremblement des terres. Et ce tremblement a fendu les rochers. Effet surnaturel. Fait surnaturel. Et enfin, la Bible nous dit les tombeaux se sont ouverts. Et le corps, les corps de plusieurs saints morts ont ressuscité. Et sortis des tombeaux, après la résurrection du Christ, ils sont entrés dans la ville. Et un grand nombre de gens ont vu ces bien-aimés qui étaient morts, ces saints en Christ qui étaient morts, qui ont ressuscité, que le Seigneur a amené avec lui et a fait entrer dans la gloire. Alléluia. Mes amis, tout est accompli. C'est un cri de victoire absolue. Alléluia. Tout est accompli. L'œuvre de la croix, tout accompli. La dette de nos péchés a été entièrement payée, totalement réglée, et le plan du salut parfaitement accompli. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Voilà pourquoi, mes amis, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, en ce dimanche qui précède le dimanche pascal, c'est quelques vérités en rapport avec cette sixième parole que le Seigneur a proclamée ce jour-là, ces cris de triomphe, tout est accompli. Alors ne donne pas l'occasion au diable de venir te perturber. Christ a tout accompli. Il a payé le prix de ta guérison. Il a payé le prix de ta restauration. Il a payé le prix de ton salut. Il a payé le prix de ta délivrance. Il a payé le prix de ta bénédiction. Car en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il a payé le prix de la malédiction. Donc arrête de culpabiliser. Arrête d'avoir une image négative de ta propre vie. désormais regarde-toi au travers du Christ et de son œuvre. Alors je vous prie d'incliner vos têtes dans la prière. Nous voulons remercier le Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix. Mais avant cela, je voudrais faire un appel. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Y a-t-il quelqu'un au chapiteau, dans les différents hangars? Là, à la cour de l'école maternelle, sur le parking? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience avec Jésus? Tu n'as jamais rencontré le Christ? Certes, tu as une religion. Certes, tu as une certaine connaissance religieuse, théorique de Jésus, mais tu n'en as jamais pris la décision de le recevoir dans ta vie, de te repentir de tes péchés, de te repentir de ton passé abominable, de déposer tout à ses pieds et de commencer une nouvelle vie avec lui. Si tu es là ce matin, mon ami, quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours, eh bien le Seigneur t'appelle. Lève simplement la main. Et nous allons prier avec toi pour que ce matin, pour qu'aujourd'hui, tu puisses recevoir Jésus et ainsi expérimenter les effets bénéfiques, les effets bienveillants de l'œuvre de la croix dans ta vie. Oh, alléluia. Merci. Il y a des mains qui s'élèvent. Gardez bien vos mains, s'il vous plaît. Il y a des mains qui s'élèvent à travers la salle. C'est un moment solennel. C'est un moment où le Fils de Dieu voudrait venir dans vos vies, voudrait vous pardonner, voudrait vous libérer de toutes ces chaînes dans lesquelles vous vous trouvez. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes esclave de tel ou tel autre péché. Et aujourd'hui, celui qui a poussé ces cris, tout est accompli, se tient devant vos cœurs. Et il veut entrer dans vos vies. Oh, alléluia. Oh, merci. Nous avons tous nos têtes baissées. Et je demande à ceux qui ont levé leurs mains de se lever et de prier avec moi. S'il vous plaît, ne regardez pas autour de vous. Mais voilà, merci pour ceux qui se mettent debout. Merci. Mettez-vous debout. Oh, alléluia. Que nos amis de l'évangélisation voient qu'ils sont là pour leur donner quelques traités. Oui, merci. Un jour, moi aussi, j'ai entendu ce cri de Dieu qui me cherchait. Bondo, où es-tu? Je dis, Seigneur, je suis caché, je suis sale, je suis impur, je suis coupable, ma vie n'est pas digne. Il dit, oui, je suis venu pour toi. Et là, la croix, un cri a crié, c'est arrêtenti, j'ai tout accompli pour toi. Alors, il se tient devant toi. Vous allez faire cette prière avec moi. Et puis ensuite, s'il vous plaît, ne repartez pas. Quelques frères, quelques sœurs vont prendre soin de vous. Ils vont vous accompagner pour vous dire, vous partager quelques mots. Répétez cette prière après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, faites de cette prière votre prière, vous qui vous êtes levés. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as donné ta vie pour moi. Tu as pris tous mes péchés, dont je suis encore esclave. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Ce matin, je viens d'entendre ta voix. Ce matin, je me lève devant toi, Seigneur, pour me repentir de mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, ô Dieu, pour tout le mal que j'ai fait. Et en même temps, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur, que je ne sois plus seul. Sois avec moi, je te reçois comme mon sauveur, je te reçois comme mon Seigneur. Merci Jésus, de ce que tu me pardonnes maintenant, de ce que tu me libères du poids de ma culpabilité, de ce que tu me libères du péché et de ses effets nocifs. Merci Seigneur, merci Jésus. Prends ma vie, que je ne vive plus pour moi-même, que je vive pour toi, Seigneur. Amen. Vous restez debout. Nous allons prier pour ces amis qui se sont levés pour accepter Jésus, qui l'ont accepté, afin qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils ne soient plus esclaves du péché, qu'ils ne soient plus esclaves du diable, esclaves du monde, qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour eux. Prions tous ensemble. Recommandez-les au Seigneur. Alléluia. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, avec ces bien-aimés, avec ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, Seigneur, se sont levés pour répondre favorablement à ton appel. Ces bien-aimés, Seigneur, ont réalisé la noirceur de leur état, ont pris conscience du besoin du salut en toi. Ils ont imploré ta grâce, tu as entendu leur voix, ils t'ont ouvert la porte de leur cœur, tu es entré dans leur vie. Maintenant, nous te prions de les bénir. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, d'être avec eux, de te tenir à leur côté, de vivre désormais en eux et avec eux. Délivre-les de tout lien, de toute chaîne, quelle qu'elle soit. Que ces bien-aimés expérimentent la délivrance, expérimentent la guérison, expérimentent la libération par rapport au pouvoir du péché, par rapport à toutes sortes de malédictions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cela est possible pour eux maintenant, à l'instant où je proclame la puissance de ton nom, car à la croix, tu as tout accompli. Au nom de Jésus, nous les accueillons dans ton assemblée, mais surtout, Seigneur, tu les accueilles dans ton royaume. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout. Après ce moment béni, merveilleux, où nous avons assisté, Seigneur, à la prise de la décision la plus grande, la plus importante qui soit, de la part de toutes ces personnes, de te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Oui, après ce moment de joie, car ta parole déclare qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais ce matin, il y a eu plus qu'un seul pécheur. Et donc, Seigneur, nous voulons nous réjouir avec le ciel pour ces bien-aimés qui se sont repentis. Oh, merci. Merci pour tout.